Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence sera aussi comptée. Lève-toi et promène-toi dans le pays de long et en large, car je te le donnerai. Et Abraham leva ses tentes et vint et habita auprès des chênes de Mamré qui sont à Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Nous arrêtons d'abord là quelques moments. On a souvent rappelé, chers amis, que le livre de la Genèse était comme la parole de Dieu en raccourci, en petit. En effet, Dieu y a placé le trésor des pensées impérissables de son cœur envers nous, qui allait se manifester dans ses diverses relations avec l'homme jusqu'au moment où celles-ci prendraient leur tour définitif pour nous amener devant sa gloire et avec abondance de joie. Tous les grands principes que la parole de Dieu nous développe se trouvent déjà en germe dans le livre de la Genèse. Par exemple, qui n'a pas été touché en lisant l'introduction de notre Bible et en constatant comment le cher introducteur nous parle d'Abraham, le père de nous tous, puisque Paul l'appelle ainsi dans l'Épître aux Romains, le père de la foi. En lui, nous avons les trois grandes racines de l'arbre de la grâce, parce que Dieu l'a élu. D'abord l'élection, ensuite Dieu l'a appelé, et enfin Dieu a fait reposer sur lui toutes les promesses qu'il a faites. Et toutes les promesses qui sont faites à Abraham contiennent toutes celles qui seront développées par la suite. L'élection, l'appel, les promesses, trois grandes racines de l'arbre de la grâce, dit J.N.D. et aimait ainsi affirmer celui qui parlait si volontiers de ce sujet, paraît-il. Mais nous avons été élus pourquoi ? Pour être adoptés. Éphésiens 1. Nous avons la position de fils, l'adoption dans Isaac. Selon ce que nous pouvons développer dans l'Épître aux Galates, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si fils ? Et fils parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père dans la jouissance d'une relation aussi étroite, aussi intime que possible avec Dieu révélé comme Père. La position de fils, si précieuse au cœur de tout enfant de Dieu, pouvoir dire Père, notre Dieu. Si nous continuons, nous allons avoir Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. Qu'allons-nous trouver dans la vie de Jacob? Ce qui, chers amis, nous accompagnera tous jusqu'au dernier moment que nous passons sur la terre, c'est-à-dire Hébreux 12, la discipline à laquelle nous sommes soumis parce que nous sommes des fils et non pas des bâtards. Mais la discipline, l'éducation, en vue de nous faire du bien, de nous former, de trancher l'un après l'autre les liens qui, hélas, nous enlaceraient si facilement avec la terre, avec le monde, et nous attacher à ce qui est au ciel, à celui qui est là entré comme précurseur pour nous. Et tout ce qui nous brise, tout ce qui nous meurtrit, c'est un bien que Dieu met à notre profit, que nous ne comprenons pas sans doute. Mais tout à l'heure, lorsque nous serons dans la maison, nous serons émerveillés en constatant que tout ce qui paraissait nous avoir été enlevé, et tout ce qui nous a fait verser des larmes, mais quelquefois bien amères, était loin d'être une perte, était un gain pour nous. Et nous comprendrons qu'il n'y avait aucune discordance entre les voix de Dieu si incompréhensibles, si mystérieuses, pas de discordance entre les voix de Dieu et son amour et sa sagesse. La vie de Jacob. Que de roues dans la roue de Jacob. Le prophète Ézéchiel nous montre une roue qui tourne, apparemment quelque chose d'irrationnel. Si quelqu'un n'entendait pas, il ferait bien de lever la main. Quelque chose d'irrationnel, une roue dans la roue. Mais Jacob pouvait dire, que de roue dans ma roue, tout tout cela est contre moi, dit-il. J'ai perdu Joseph. Siméon n'est pas remonté d'Égypte, et maintenant ils me prennent Benjamin. Et Jacob ignorait que, dans peu de temps, loin d'avoir perdu quoi que ce soit, il allait retrouver Joseph, se jeter au cou de son fils. Il n'y avait rien contre Jacob. Tout est contre moi, dit-il. Il n'y avait rien, tout était pour lui. Et la roue qui apparemment contrariait, la roue qui tournait, cette roue avait amené d'abord Joseph de la citerne sur le trône d'Égypte et allait amener Jacob du plus profond de sa tristesse dans la joie incomparable qu'il allait connaître en retrouvant Joseph. Voyez les grands principes. Si nous voyons continuer, nous devions parler de Joseph, mais nous allons tout le temps nous écarter de notre sujet. Mais ainsi de suite. D'ailleurs, le commencement, la fin du livre, surtout intéressant à considérer. Et le milieu du livre, qu'avons-nous au commencement? La puissance de Dieu à l'heure. Dieu nous ouvre, a-t-on dit, les portes de granit par lesquelles, de l'éternité, nous entrons dans le temps. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu n'emploie le verbe créer que pour Dieu. Pour la création de la matière, pour la création de la vie, pour la création de l'homme. Trois fois répété, car faisons l'homme, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont à l'œuvre dans la création, comme ils le seront dans la rédemption. Trois fois le verbe créer pour l'homme, une fois pour la création de la matière, une fois pour la création de la vie animale et tous ses dérivés. Mais nous ne trouvons pas que l'Esprit de Dieu emploie le mot créer pour quoi que ce soit d'autre qui soit attribué à Dieu quant à sa puissance éternelle et à sa divinité. La fin du livre, c'est précisément un des patriarches qui nous donne le dernier mot. C'est un mot sinistre. C'est un mot effroyable. Mais c'est une réalité, car nous nous promenons tous parmi ce qui n'a que l'apparence. Certainement, tout homme n'est que vanité, il se promène parmi ce qui n'a que l'apparence. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui nous accable de soucis, tout cela pour Dieu qui est parti du domaine des apparences. Les réalités, en voici une. C'est le dernier mot du livre, c'est un cercueil. Mais comment cet homme peut-il parler en présence d'un cercueil? Peut-il parler deux fois de certitude? Certainement, dit-il, Dieu nous visitera. Et mes hommes, ce n'est pas en Égypte, quelque somptueux que soit le sépulcre, que soit le mausolée dans lequel ils seront placés, ce n'est pas cela que je demande. Je demande que mes os soient remontés ici, à Hébron, à Marpella. Dans la caverne où se trouvent les os d'Abraham, d'Isaac et de Sarah. Comment cet homme peut-il parler de certitude? Et d'une certitude telle que il est certain qu'au-delà de la mort, il connaîtra la vie éternelle en puissance. Eh bien, Dieu nous donne le secret dans la moitié du livre. Nous ouvrons la moitié du livre. Comme quand nous ouvrons la parole de Dieu par la moitié, nous l'avons de Daniel 53. Et Dieu nous donne le secret par lequel cet homme peut parler dans une création ruinée qui vient de Genèse 1, cette explosion de vie qui se termine par un cercueil. Cet homme peut nous donne le secret, Dieu nous donne le secret par lequel cet homme peut parler de vie victorieuse de la puissance de la mort qui est intervenue par le diable. C'est en vertu de l'autel, parce que tu as fait cette chose-là. Certes, en bénissant, je te bénirai. Et il fait des promesses pour toute la semence d'Abraham. La semence, la descendante d'Abraham. Et ensuite, deuxième emploi du mot de la semence dans Genèse 22, la semence qui est Christ, par qui toutes les promesses seront accomplies. En vertu du fondement impérissable sur lequel Dieu peut s'appuyer maintenant, étant glorifié pour donner essor à toutes les pensées de grâce de son cœur. Et on dit cela à l'intention de nos jeunes amis en particulier pour nous aider à lire la parole de Dieu avec attention. Nous aimions nous occuper, si vous voulez bien, d'Hébron. Voilà, Dieu n'a pas besoin de nous faire des grands discours. Mais par un lieu géographique, un endroit dans la parole de Dieu où se sont passés certains faits, si nous faisons bien attention, nous avons l'Esprit de Dieu pour nous conduire, car ce n'est pas notre intelligence qui nous conduit. C'est un merveilleux outil, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre pour nous faire entrer dans les pensées de Dieu, nous ne pourrons jamais. C'est un livre fermé. Le prophète Ésaïe a d'ailleurs une allégorie, une anecdote bien intéressante. C'est un livre que l'on donne à quelqu'un qui n'a pas de prétention. Il dit, ah, moi je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Je n'ai pas la capacité de lire. Il fait l'aveu qu'il peut penser en entendant les pensées de Dieu. Mais on le donne à lire à quelqu'un qui a des prétentions, du moins il sait lire. On lui donne le livre, il dit, lis un peu. Ah, il doit faire l'aveu. Je ne peux pas lire. Il sait lire, mais il peut entrer dans les pensées de Dieu. Je ne peux pas lire, car le livre est scellé. Mais Dieu l'ouvre aux petits enfants. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Tu les as révélées aux petits enfants. Si nous suivons l'histoire des branches, dans l'Ancien Testament, nous assistons à une succession de pensées que Dieu nous donne à travers cet endroit, les plus précieuses, encourageantes, consolantes et édifiantes autant que la parole de Dieu l'est lorsqu'elle s'adresse à nos âmes. On dit de quoi? Pour nous instruire de géographie. Non, ce n'est pas cela que Dieu poursuit. Mais à travers tous les faits qui se sont passés à Hébron, comme par sa parole qu'il nous a donnée, Dieu veut élever nos âmes à la hauteur de ses pensées pour que nous soyons heureux dans la communion avec lui. Et il ne le fait pas autrement que par sa parole. Parole qui a opéré dans la création, et l'éternel Dieu dit, et c'est en vertu de ce que Dieu dit, il a parlé, la chose a été, c'est toujours cette même parole qui est à l'œuvre pour produire la vie aujourd'hui, la nouvelle vie, et pour entretenir la vie qu'elle a produite, pour nourrir la vie qu'elle a produite. La parole de Dieu, vivante, permanente, le pain qui est, le vrai pain qui est descendu du ciel. Nous avons donc un sujet bien important qui commence avec Hébron dans ce chapitre 13, pour en dire quelques mots. Du lieu où il est, Lot a choisi, inutile de parler de Lot, n'est-ce pas, nous connaissons bien cette histoire, comment il a choisi ce qui était agréable à la chair, ce qui plaît au cœur de l'homme. Abraham, nous le verrons tout à l'heure, est un homme de foi. Il n'y avait pas d'équivoque dans sa vie. Il y a eu des faiblesses sans doute, à tel point que dans le chapitre 13, au début, il devra refaire ce que nous devons faire chacun. Il devra refaire tout le chemin inverse à partir duquel, à partir de l'endroit où il s'est écarté, il devra refaire tout le chemin pour retrouver l'autel qu'il avait au commencement, c'est-à-dire pour retrouver la communion avec Dieu, il faut revenir au point de départ où nous l'avons perdu et confesser ce qui a, hélas, ce qui nous entraîne loin de la jouissance de la communion. Abraham revient donc à cet endroit. C'est un homme de foi. Est-ce qu'on tombe? Est-ce qu'on ne se relève pas? Mais Lot, il y avait chez lui, c'est un croyant sans doute, mais Lot se plaisait à Sodome. Quelle différence entre Lot et Abraham, j'en dis en passant. Abraham, le Seigneur vient lui dire, lorsqu'il est séparé de Lot, regarde du lieu où tu es. Et il semblerait bien qu'on peut, en passant, associer cette scène qui est devant nous à celle qui se passera plus tard avec Moïse. L'Éternel appelle Abraham et lui dit, tu vois ce pays. Il est à toi, il t'appartient. Mais Abraham, tout en étant le possesseur du pays, nous le verrons plus loin, n'avait pas un mètre carré à lui. Mais Dieu dit, ce pays est à toi. Alors, comme à Moïse, sur le mont Pisga, regarde, en avant, vers la Méditerranée. Et cet endroit, regardant vers la Méditerranée, d'où Abraham se trouvait, et je ne vais pas faire injure aux personnes qui l'ont vu de près, sa vue passait au-dessus de Bethléem. Il pouvait regarder vers le sud, vers le nord, il avait tout le pays devant lui. 180 degrés que Dieu lui fait faire pour découvrir tout le pays. Comme ici, Abraham, regarde tout ce pays, je te le donne. Quelle est la réaction d'Abraham? Le dévenons tout de suite. Je te le donnerai à ta semence pour toujours. Il ne l'a pas donné pour quelques siècles, il l'a donné pour toujours. Quelle que soit l'opposition des nations, quelle que soit la détermination des ennemis, Dieu a donné ce pays pour toujours à Abraham. Et le prophète confirme qu'il l'a donné pour tous les siècles. Et bientôt, ils le posséderont tel que Dieu le leur a donné. Et ils le posséderont avec ce qu'ils ont aujourd'hui maintenant, et qu'ils n'ont pas gagné, la bataille qu'ils n'ont pas gagné, c'est-à-dire la paix et la sécurité. Et Dieu leur donnera pour toujours avec la paix et la sécurité. Pour endormir dans les forêts, on n'aura plus besoin de carabines, d'armes meurtrières pour garantir les frontières. Je l'ai donné pour toujours à mon serviteur Abraham. Et celui qui chassa les ennemis est définitivement, hélas, malgré leur sagacité, leur talent et leur habileté militaire, ils ne l'ont pas encore obtenu. Mais lui, lorsqu'il entrera en scène, il nous a dit, Jacob l'annonce, avec des cornes comme celles du buffle. Il va pousser tous les ennemis jusqu'aux extrémités du désert. Et le pays sera en l'or définitivement et enfin à eux, comme il l'a donné, comme Dieu leur promet pour toujours. Donc une promesse extraordinaire que Dieu fait à son serviteur Abraham. Quelle est la conséquence? Voilà le point essentiel. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Oui, quand il entend Dieu lui dire, lève-toi, promène-toi dans le pays de long en large, je te le donnerai, où Abraham vient-il se fixer? C'est important cela. Apparemment, nous passons sur ce détail. Mais il ouvre une source de pensée extrêmement précieuse. Abraham vient se fixer à Hébron, vient dresser ses tentes à Hébron. Or, nous commençons, si vous voulez bien, cette histoire d'Hébron merveilleuse. Où se trouve Hébron et que s'est-il passé à Hébron pour qu'Abraham choisisse cet endroit pour venir dire, eh bien, puisque Dieu m'a fait la promesse d'habiter ce pays qu'il m'a montré en long et en large, c'est à Hébron que je viens fixer ma tente. C'est là que je viens en communion avec Dieu, heureux d'avoir reçu de telles promesses. Ma détermination, c'est la voici, je viens me fixer à Hébron. J'affirme ainsi que je crois en ce que Dieu m'a donné, et il monte une telle foi que nous en sommes vraiment stupéfait. Nous ne pouvons pas trouver d'autres termes. Car en effet, Hébron, livre des Nombres, chapitre 13, avait été construit 7 ans avant Tsoan ou Tanis, comme nous l'avons à la note en Égypte. Or, si nous lisons dans le psaume 78, nous apprenons quelque chose de Tanis. Nous apprenons que c'est là que les grands actes de Dieu se sont passés pour délivrer son peuple hors de la fournaise d'Égypte. C'est là que Moïse est venu de la part de Dieu, avec la verge de Dieu, pour mettre l'ennemi à la raison. C'est là que toute la puissance de Dieu s'est déployée, avant qu'elle se traduise par la défaite totale du Pharaon, qui est descendu dans les eaux de la mer Rouge. Et il n'en est pas resté un seul de leurs ennemis des Écritures. Mais, là où se manifeste cette puissance de l'ennemi, voyez, qui tenait Israël captif à Tsoan, il y avait déjà, avant cette ancienne ville, en histoire, c'est extraordinaire. Avant l'une des plus anciennes cités du monde, il y avait déjà Hébron qui était construite, dit Hébreux 13. Et que trouvons-nous à Hébron? Nous le verrons tout au cours du sujet que nous allons poursuivre. C'est là qu'habitait un géant, Anak, le père d'Arba, qui avait lui-même 3 fils. Un lieu redoutable, un endroit donc marqué par la présence des géants, la présence des Anakim, qui faisait fondre le cœur de tous ceux qui les approchaient. Abraham sait bien que le géant vit là. Abraham sait bien qu'à Hébron est l'endroit où se trouve cette puissance qui est plus ancienne encore que celle de Tanis en Égypte, où les fils d'Israël allaient être tenus captifs, et où la puissance de Dieu allait se déployer. Oui, par cette association d'idées, nous venons là au siège même de la puissance du diable. C'est à Hébron que Anak, le père d'Arba, père de 3 géants, c'est là qu'en figure Satan se trouve, qu'il a le siège de sa puissance. Mais Abraham affirme ainsi, en venant à Hébron, que la possession du pays que Dieu vient de lui promettre nécessite qu'un jour ce géant, ses 3 fils, soit disparu de la scène, qu'il n'y ait plus d'Anakim dans le pays. Cela veut dire qu'un jour, Dieu doit se mettre à l'œuvre pour liquider ces géants avec lesquels personne ne peut se mesurer. Abraham, en venant à Hébron, là dans le lieu où s'affirme la puissance du géant, vient nous dire ainsi, je crois au Dieu qui fait vivre les morts, au Dieu de la résurrection, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et il estime ainsi qu'un jour il possédera le pays, et il le possédera à Hébron, malgré celui qui est là, le géant, celui qui tient les hommes captifs, celui duquel personne, du jour duquel ou au jour duquel personne ne pouvait se soustraire. Voilà une première manifestation de la foi de notre père Abraham. Il s'appuie sur Dieu, qui a promis qu'un jour la semence de la femme qui viendrait dans ce monde détruirait toutes les œuvres du diable qui s'affirme à Hébron. Nous comprenons bien l'association d'idées comme elle est précieuse. Donc à Hébron, Abraham vient dresser ses tentes. Nous tournons quelque part dans la vie de ce patriarche, nous arrivons au chapitre 23, nous allons lire quelques versets comme suite à cette première mention de la ville d'Hébron dans le chapitre 13, où là, Abraham est venu habiter, affirmant ainsi que le pays que Dieu lui avait donné, il le posséderait un jour, mais il le posséderait après que tous les ennemis auraient été balayés de la scène. C'est un triomphe de la foi de venir se placer à Hébron, car vous voyez, nous anticipons un peu, si vous prenez la peine d'ouvrir la parole de Dieu au chapitre 9 de l'île de Deutéronome, vous allez voir ce que signifiaient les Anakims qui se trouvaient là à Hébron, les fils d'Anak, au chapitre 9 de l'île de Deutéronome. L'Éternel dit au verset 1er, où tu passes aujourd'hui le Jourdain pour entrer, pour posséder des nations plus grandes et plus fortes que toi, des villes grandes et murées jusqu'aux cieux, un peuple grand et de haute stature, les fils des Anakins que tu connais et dont tu as entendu dire, qui peut tenir devant les fils d'Anak? Or nous verrons dans le cours de l'histoire que Anak, père d'Arba, père de trois géants, habitait à Hébron, c'était là l'endroit où il siégeait dans sa puissance, et qui était une puissance invulnérable. Qui peut se mesurer avec la puissance de l'ennemi? Qui a pu se soustraire? Quelle est la philosophie? Quels sont les moyens humains qui ont pu être mis en œuvre pour faire reculer la mort? Nous allons la voir à l'œuvre tout de suite dans le chapitre 23 et les conséquences que la mort entraîne, mais aussi l'attitude d'un croyant vis-à-vis de cette puissance que personne n'a pu juguler dans ce monde. Abraham, la vie de Sarah, chapitre 23, plus de 127 ans. Ce sont là les années de la vie de Sarah, et Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hébron, dans le pays du Canaan. Et Abraham vint pour mener l'œil sur Sarah et pour la pleurer. Première mention, vous voyez, Abraham n'a pas quitté l'endroit d'Hébron où il s'est établi depuis le commencement. Nous sommes toujours au même endroit lorsque Sarah, son épouse, lui est reprise. Verset 3. Abraham se leva de devant son mort et il parle au fils de Heth, disant, je suis étranger, habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre parmi vous et j'enterrerai mon mort de devant moi. Et les fils de Heth répondirent à Abraham, disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous, enterre ton mort dans le meilleur de nos sépulcres, aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour y enterrer son mort. Et Abraham se leva et se prosterna de devant le peuple du pays. Alors, dans le verset 14, et Hébron répondit à Abraham, disant, mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 sicles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre donc ton mort. Et Abraham écouta Hébron, et Abraham pesa Hébron l'argent dont il avait parlé en présence des fils de Heth, 400 sicles d'argent ayant cours entre les marchands. Verset 19. Et après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et le champ et la caverne qui s'y trouvent furent assurés à Abraham pour les posséder comme sépulcre de la part des fils de Heth. Abraham connaît un dernier deuil extrêmement douloureux. Son épouse lui est enlevée. La mort entre dans la tente, dans la maison d'Abraham. Ennemi implacable, que nulle prière ne peut fléchir, insensible à toutes les larmes, toujours inopportune. Elle entre là pour réclamer ses droits. Elle est, comme le disait un de nos chers frères, le sceau de Dieu mis sur le péché de l'homme. La condamnation qui repose sur un homme. Et la mort a passé à tous les hommes en ce que tous ont péché. Et Abraham se trouve là, meurtri dans ses affections les plus vives. Les liens les plus précieux de son cœur sont brisés. Et on comprend les mots que l'Éternel, que l'Écriture emploie pour nous parler d'Abraham qui met l'œil sur Sarah et qui vient pour la pleurer. C'est un des côtés du tableau. Mener l'œil et pleurer, nous ne sommes pas l'esprit. L'Esprit de Dieu en nous, dit JND, affine la sensibilité de quelqu'un. Il donne cette sensibilité, car lorsque nous sommes loin de Dieu, évidemment, nous ne pouvons pas nier qu'il y ait des qualités inhérentes à la nature humaine, mais notre entendement est obscurci. Qu'est-ce qui caractérise l'homme en Adam? L'égoïsme, penser à soi, et se désintéresser des souffrances d'autrui, se renfermer sur soi-même. Le croyant n'est pas un insensible, n'est pas un stoïque. Il est... Sa nature sensibilisé par l'Esprit de Dieu, l'amène à souffrir en présence de toutes les formes de souffrance qu'il rencontre, à sympathiser. D'ailleurs, Paul dira, il montrera que nous ne pouvons pas être croyants dans ce monde, monde rempli de misère de toutes sortes, là où la mort règne, nous ne pouvons pas être croyants sans souffrir, sans participer à cette forme de souffrance. Abraham connaît donc un deuil extrêmement douloureux pour lui, et il mène deuil et il pleure. Paul dira, nous ne sommes pas des stoïques, car nous versons des larmes, que de larmes ont été versées dans la famille de la foi. Mais nous ne pleurons pas, dit-il, comme ceux qui n'ont pas de sens. Car pour l'homme qui n'a pas la vie de Dieu, en dehors de la foi, la mort est quelque chose d'épouvantable. C'est le désespoir le plus noir qui s'empare de lui. Où nous mène la mort? Au-delà de ce seuil si redoutable, nous plongeons dans un inconnu ténébreux. Pour l'homme qui n'a pas la foi, qui n'a pas la vie de Dieu, qui n'a pas la lumière que donne l'Évangile, quel sort affreux. Pour le croyant, c'est terrible la mort, sans doute. Mais quel bonheur elle ne fait. Elle ne fait que exercer ses droits sur la pauvre enveloppe mortelle, sur notre corps, mais elle ne peut plus rien sur notre âme sauvée, qui appartient au Seigneur et qui partage avec lui cette vie victorieuse de la mort. En résurrection, nous sommes déjà ressuscités avec Christ. Mais quant à Paul parlera de ce grand trésor que nous possédons dans un vase de terre, toujours lié à la première création, où la mort exerce ses droits. Évidemment, il est extrêmement douloureux de perdre les siens, qui n'en a pas fait d'une manière ou d'une autre l'expérience, qui n'a pas versé de telles larmes, qui n'est pas appelé à en verser. Mais vous voyez d'un autre côté la dignité de la foi. Abraham, le croyant, fidèle, qui affirme dans sa foi qu'un jour la mort sera vaincue, il pleure son épouse et il mène deuil sur elle. Mais tout aussitôt, Abraham se leva de devant son mort. Et il peut rendre ce témoignage à ceux qui l'entourent en disant « Je suis étranger au milieu de vous ». Mais cela, chers amis, ne sonnait pas faux quand Abraham dit « Je suis étranger ». Quand l'autre dira quelque chose de semblable, les gens autour de lui vont le regarder, et au lieu de le regarder avec respect, vont le regarder avec le plus grand mépris. Et ils vont lui dire, ils vont parler de lui en disant « Cet individu, qui était le plus utile au monde ?» Abraham ou son neveu Lot? Celui qui se lie au monde pour la poursuite des objectifs que s'assigne le monde afin de l'améliorer, de le rendre meilleur, ou le croyant qui s'en sépare? Qui est le sel de la terre? Et qui sera le plus utile au monde? Le croyant le plus utile au monde est celui qui se sépare du monde. Il montre au moins au monde qu'il y a un autre chemin que le sien et que celui dans lequel il est engagé ne peut conduire qu'au plus funeste abîme, tandis que le chemin que le croyant suit dans la lumière est un appel au monde et un exemple saisissant que le monde ne peut pas manquer de ressentir. Et il l'a bien compris à l'égard d'Abraham, car il dit d'Abraham, cet homme, bien que nous ne l'aimions pas sans doute, car le monde ne peut pas aimer ce qui est sien, ne peut pas au fond aimer un croyant, car la position d'un croyant fidèle juge le monde. Mais le monde est obligé de reconnaître, cet homme, il y a un secret, il y a quelque chose dans sa vie que je ne possède pas. Et ils sont obligés de dire d'Abraham, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu, mon Dieu. Mais il n'y avait pas d'équivoque dans la vie d'Abraham. Il avait une tente, il avait un hôtel, ses rapports avec Dieu étaient dénués, n'avaient rien d'ambigu, n'avaient rien d'équivoque. La vie d'Abraham était en lui-même un exemple, un témoignage à la gloire de Dieu. Et on est obligé de dire, cet homme, c'est un prince de Dieu, mon Dieu. Tandis que de l'autre, on dira, c'est un Dieu. Nous n'avons pas l'habitude de raconter des gens à d'autres, mais il y a qu'il arrive que nous puissions conduire. Et cependant, nous pourrions bien donner la référence dans un article sur le livre d'Agnès, précisément. Il disait ceci d'un croyant. Nous étions amenés, dit-il, à entendre le témoignage de quelqu'un qui parlait d'un frère. Cette personne, connaissant M. Prodon, et sachant que M. Prodon connaissait la personne dont il était question, lui disait ceci. Eh bien, cet homme, disait-il, c'est l'homme du monde qui parle. Eh bien, infiniment tout ce que le monde aurait pu donner à l'homme. Il disait, lorsque l'homme était fait, et dans les conditions que nous connaissons bien, pas même une croix sans gage. Rien de ce domaine. Pas même un film une proportion d'un film, vous voyez le film comme il est, un film avec lequel le monde aurait dû lire ma larme. Un film, ce n'est rien, deux films, non plus trois films, mais lorsque le monde réussit à nous attacher avec des films, nous ne trouvons plus la route lorsqu'ils sont incertains. Pas même un film, est-il, une proportion de sandales. Voilà la vie d'Abraham. Alors il achète à Hébron, la caverne de Machéla, il achète à Hébron. Pourquoi? Parce que là où il a dressé sa tente, il y a une conception d'Abraham, et dans la caverne, les autres de Sarah s'y trouvent. Pour faire une compassion, c'est dans la vallée de Hébron, que Joseph va se trouver envoyé par son père. Il y a là aussi une mine intéressante d'enseignement. C'est là où la mort régnait, que Joseph va venir chercher ses femmes. La foi du patriarche Jacob se traduit au chapitre 49 par la même affirmation. Il dira au verset 29, c'est à Joseph qu'il parle, il vient de parler comme le patriarche, comme le prophète, dans l'histoire passée, présente et future du peuple, et trois noms pour nous parler de Judas, du prince des princes, du roi des rois, seigneur des seigneurs. De Joseph, bien-aimé de son père, et de Benjamin, celui qui va exercer la vengeance comme un loup qui déchire. Trois noms pour parler du Seigneur. Ces croyants, chers amis, savaient bien qu'un jour, nous allons nous trouver sur la nuée, quoique la révélation de Paul ne leur avait pas encore été donnée. Ils sont toujours liés ensemble. Ce n'est pas juste. Il peut arriver que Dieu fouette, et il fouette tout fils qu'il avait. Mais la discipline et la répréhension ne sont pas. D'abord, il va perdre son épouse. Rachel va lui être enlevée. Et il y a là, à côté de cette pauvre Rachel qui s'en rend un petit garçon, qui a seulement 5 ans. Joseph. Et Benjamin connaît le jour au milieu de ce drame sans pareil. Et la mère en son moment de peine. La mort est plus forte que lui. Fils de ma peine. Jacob, ce que va-t-il dire, dans un moment où son cœur est brisé, quand il en parle de ce drame. Il y a une raison de prendre son sens. Tout est à la même page, oui, dans le chapitre 48, verset 7. Oui, et moi, je viens, point de suspension. Pourquoi a-t-il des points de suspension? Pour nous faire assister, n'est-ce pas, au silence douloureux de Jacob. 50 ans, 8 années plus tard, les mois d'été, il ne peut plus continuer. Il revoit le tableau. Mais tout en ayant tout le cœur brisé de telle manière que ces moments de la scène sont arrêtés douloureusement et hein, dans ce moment-là, comment dit-il là? Il ne dit pas oui, Benoni nous sommes d'un coup. Il revoit à côté de ceux d'Abraham, de Sarah et d'Isaac qui intéressent Jacob. Voilà la foi décidée de Dieu. Parce que Jacob affirme ainsi qu'un jour, dans une table, couché dans une crèche, petit enfant avec eux. Mystère de la foi. Lequel, sur la personne duquel tout l'édifice de Dieu repose, tout le propos des siècles, à l'égard de l'homme, à l'égard de l'individu, à l'égard d'Israël, à l'égard des nations. Le jour où l'œil qui regorge tout, de par-dessus tous ces beaux enfants dans la nation a été franchi, l'archi étant tenté la première. La part, Dieu est vu comme juge, rencontrant tous nos péchés, mais fournissant sa justice. La ressource nécessaire pour la satisfaire. L'amour de Dieu nous a donné Jésus. Dieu a dit non comme juge, mais comme sauveur, nous ne pouvons pas nous libérer. Car vous voyez, même sous l'aspersion du sang, Israël n'était pas libéré. Il avait encore le pharaon qui le poursuivait et la mère devant nous, mort avec Christ. Et Gilgal, où nous nous trouvons sur notre route, a sali par des convoitises, Je suis tyrannisé par les convoitises que Satan excite en moi. Mais je dis, Seigneur, accorde-moi de réaliser que je suis mort avec toi. Comme ta parole me le dégage, immédiatement le soulagement. Satan doit lâcher prise. Satan ne peut rien contre un croyant qu'il trouve une Christ, qu'il trouve dépendant de Christ. Il doit s'enfuir, comme disait un de nos chers frères, de votre pays d'ailleurs, et que nous avons, de qui nous avons tant reçu. Comme un oiseau de nuit tout effrayé. Dans le chapitre 14, donc le Jourdain a été tranché. C'est un peuple qui habite les lieux. Mais nous attendons. C'est un peuple donc qui en fut bon et bâti 7 ans avant son guéri. Pourquoi trouvons-nous dans ce chapitre 13 du livre des Nombres cette mention des noms?
Le pays dans lequel nous sommes allés est vraiment ce que Dieu a dit, un pays ruisselant de lait et de miel.
De cela, les 10 espions ont entendu de le confirmer. Mais on le diffère entièrement, c'est lorsque Caleb dira, et dans ce jour-là, il y a 45 ans que cela s'est passé, et l'Éternel m'a confirmé, Caleb, tu es passé dans ce pays, tu as vu les vignobles, tu as vu les champs, comme il y avait des choses extraordinaires. Ah, j'ai tout mangé, pourquoi? Caleb n'est pas un homme qui est devenu fou, parce qu'il croit précisément au Dieu de la résurrection, et que tout le peuple, les chrétiens, pourront pour le peuple qui devait disparaître de la terre de Canaan. Mais comment se fait-il que ce Caleb, qui devait être un homme de Dieu, elle a rencontré Boaz. Et qui es-tu maintenant, ma fille? Eh bien, si elle nous donnait sa réponse, mais le fils de Dieu, c'est bien que nous avons abandonné. Tu en étais une étrangère, une homme, mais Dieu n'avait droit à rien. Et tu vois comment va grave le Dieu d'Israël, sous les autres. Si nous prenons une autre femme, dont le livre de Josué nous parle, brave, nous n'aurions jamais, n'est-ce pas, évidemment, très attentifs pour ne pas nous compromettre, sans doute, et étant. Ayant soin de sa réputation, tout ce que vous voulez, mais je vous mets dans la généalogie du fils de Dieu. Caleb, fils de Jéhuné, le 15e. Mais quand la bonté de Dieu et son amour envers les hommes sont apparus, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions des ennemis, dans nos mauvaises œuvres, dans nos entendements, fils de colère, vivifiant ensemble avec Christ, et nous aperçoit ensemble dans les lieux célestes. Sauf que nous terminons. Caleb 22, tu sais que les Amalekins y sont, nous l'avons lu en nombre 9, dans le Deutéronome 9. Donc, Caleb, pour servir le service et pour faire la guerre, ce qui est demandé à chacun de nous. Nous ne pouvons plus demander, soit dit en passant, nous terminons au Seigneur d'avoir des forces aujourd'hui à 85 ans, comme Caleb. Les bénédictions ne sont plus de cet ordre-là. Mais si l'homme extérieur des bénis, l'homme intérieur, par la grâce de Dieu, se trouve renouvelé. Et à 85 ans, ils peuvent encore porter du fruit dans la grande vieillesse, verdoyant dans la maison de Caleb, tel est Caleb. Qu'est-ce que Jésus appelle quand il va entendre Caleb, il va dire, il n'est pas changé. Cet homme intrépide à quelqu'un qui éprouve dans son cœur le prix des choses que le Seigneur nous a acquises au prix de sa mort et de ses souffrances. Si vous êtes mort avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Qu'est-ce que le Seigneur va faire pour quelqu'un qui cherche les choses qui sont en haut? Non pas à celles qui sont sur la terre, puisque pour celles-là, nous sommes morts. Qu'est-ce que Josué va faire pour Caleb? Caleb va le bénir. La bénédiction du Seigneur, ce qui enrichit, sans ajouter aucune.